Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'Instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Où va Libération ? Après une très belle année présidentielle, des unes incroyablement marquantes, un petit Libé et une rubrique désintox au service de tous les lecteurs, le quotidien tombe de haut, départ de plusieurs dirigeants et vive inquiétude de ses journalistes. Libération aura-t-il les moyens de rester un quotidien ?
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Johan Hufnagel.
Bonjour Sonia.
Bilan et perspective, comme on dit, bilan et perspective, parce que vous êtes le directeur des éditions de Libération pendant encore un mois et vous l'êtes depuis déjà 3 ans. En effet, vous allez quitter le journal, vous allez rejoindre un projet de vidéo destiné au web, Loopsider. On en sait encore que peu de choses, vous allez nous en dire un peu plus, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, ce qu'on appelle un droit de réponse, qui est tout à fait normal dans la vie de la presse et des médias. Hier, au micro de l'Instant M, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart et co-auteur d'un livre sorti chez Fayard, pointait la façon dont l'entourage de Nicolas Sarkozy a fait pression sur des journaux et usé de ses bonnes relations avec certains patrons de presse pour que soit enterrée ou démentie toute info concernant le possible financement de la campagne électorale en 2007 par le colonel Kadhafi et par la Libye. Alors, mis nommément en cause dans le livre et pendant l'émission, Hervé Gattegnaud, qui est l'actuel patron du journal du dimanche et qui à l'époque travaillait pour Vanity Fair, a souhaité répondre. Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour.
Bonjour, soyez le bienvenu. Vous avez donc souhaité répondre. Une première chose d'abord que notre invité n'a pas mentionné hier à l'antenne et qui n'apparaît pas dans le livre. Ces accusations portées contre vous ont déjà été publiées sur le site de Mediapart. Elles ont entraîné de votre part une plainte en diffamation, c'est ça ?
Oui, absolument. J'ai déposé une plainte en diffamation contre Mediapart et contre les auteurs de l'article. Ils le savent fort bien, puisqu'auparavant, je leur avais envoyé plusieurs droits de réponse.
Ils ont droits de réponse qui avaient été publiés.
Leurs accusations.
Oui.
Ils ont retiré une partie de leurs accusations, mais je trouve qu'il est un peu dommage pour vos auditeurs et pour vous qu'ils aient oublié de préciser cela dans votre émission hier et de le préciser également dans leur livre.
Alors, Hervé Gattegnaud, à l'époque, vous avez réalisé pour Vanity Fair l'interview de l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, Bachir Saleh. Vous êtes le seul, si j'ai bien compris, à y avoir eu accès. Cet homme a démenti toute l'affaire du financement libyen, ce qui a engendré le regard de Mediapart sur votre travail.
Oui, c'est évidemment l'origine de ce que j'ai tendance à considérer comme un règlement de compte professionnel. Au fond, les journalistes de Mediapart ne supportent pas que l'on puisse émettre la moindre contradiction, le moindre doute contre ceux qu'ils présentent des enquêtes et qui n'en sont pas toujours. Donc, en l'occurrence, ils me reprochent d'être allé interviewer un personnage qu'ils ont présenté eux-mêmes comme le personnage central de l'affaire libyenne. Ce personnage a vécu longtemps à Paris. Ils prétendent, les journalistes de Mediapart, avoir enquêté très longuement avant de publier leurs premiers articles dans Mediapart, puis leurs livres. Lorsque ce personnage était à Paris, jamais ils n'ont essayé de le rencontrer. Par la suite, il a fui la justice de son pays, la Libye, et ce personnage, Béchir Saleh, vous l'avez nommé, il était en Afrique du Sud, et je suis en effet le premier journaliste à être allé l'interviewer. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les journalistes de Mediapart m'accusent d'être allé interviewer ce personnage pour le faire taire. Ce n'est pas moi qui en fait un gag, c'est exactement comme ça qu'ils l'écrivent.
C'est-à-dire
que je suis le premier journaliste de l'histoire à être allé interviewer quelqu'un pour l'empêcher de parler. Vous conviendrez que c'est un peu burlesque.
Alors, surtout, ce que pointe Mediapart, et aujourd'hui Fabrice Arfi et Karl Lasque sont son co-auteur dans le livre paru chez Fayard, c'est que vous êtes en contact à de très nombreuses reprises avec l'intermédiaire qui est au cœur de toute cette affaire, Alexandre Djouri. Il était sur écoute à l'époque, du coup vos conversations sont enregistrées et il se trouve que les journalistes de Mediapart y ont eu accès, donc elles sont reproduites en partie dans le livre.
Oui, mais alors vous voyez, vous épousez le postulat de Mediapart. C'est-à-dire Mediapart dit Alexandre Djouri, puisque c'est cet homme dont vous parlez, est l'un des personnages centraux de cette affaire libyenne. Écoutez, si c'est un de ces personnages centraux, il est quand même stupéfiant qu'il ne soit pas poursuivi par la justice après 6 années d'enquête. Alexandre Djouri n'est pas poursuivi par la justice. Ils disent qu'il est en fuite. À ma connaissance, Alexandre Djouri n'est pas l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice. Au demeurant, le serait-il ? Ça n'empêcherait pas un journaliste de lui parler. Je crois que même les journalistes de Mediapart, qui sont de grands saints, comme chacun le sait, il leur arrive de parler avec des gens qui sont poursuivis par la justice. J'ai parlé avec Alexandre Djouri un certain nombre de fois, comme beaucoup de journalistes parlent à leurs sources, et je ne vois pas en quoi ce serait défendu, même si ça déplaît à Mediapart, et surtout je ne vois pas en quoi ça me mettrait, moi, en difficulté avec quoi que ce soit. Encore une fois, il m'est reproché par Mediapart d'avoir contribué à essayer d'étouffer cette affaire. Franchement, là encore, c'est burlesque. Je suis un des quelques journalistes qui a écrit des articles sur cette affaire. Mais ce que Mediapart appelle étouffer l'affaire, c'est ne pas dire exactement la même chose que ce que dit
Hervé
Mediapart.
Hervé Gattegnaud, il est écrit dans il est écrit dans ce livre, page 373, je cite le livre, l'Office anticorruption. Alors l'Office anticorruption, on est bien d'accord, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des policiers. Rédige en 2014 un rapport dans lequel il est relevé que leurs investigations mettent en évidence le rôle actif d'Alexandre Djouri vis-à-vis d'Hervé Gattegnaud.
Oui, ce qui est dommage, c'est que dans le même document qui était cité par le site Mediapart dans un de ses articles que j'ai donc poursuivi en diffamation, l'auteur de ce témoignage ou de cette assertion n'est en réalité pas un policier, c'est un journaliste, c'est Pierre Péan. Pierre Péan qui a de vieux comptes à régler avec beaucoup de journalistes d'enquête, dont votre serviteur. Et Pierre Péan disait lui-même à la police, le problème c'est que je n'ai absolument aucune preuve pour affirmer cela. Et Mediapart l'avait publié sans doute un peu benoîtement dans son premier article, celui que j'ai poursuivi.
Et le republie dans le livre.
Bizarrement, ils ont fait disparaître cette phrase sur l'absence totale de preuves dans leur livre. Il est donc probable que je vais être obligé à nouveau de poursuivre ce passage parce qu'il y a des limites au dénigrement professionnel et je trouve que Mediapart, après avoir fait ce qu'ils ont fait, je vous rappelle que Mediapart a affirmé Urbi et Orbi, entre autres, que Nicolas Sarkozy était coupable d'abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt et on sait ce que la justice en a dit. Moi, j'ai fait l'effort de lire le livre intégralement.
Ça, c'est une autre affaire.
Oui, mais c'est un exemple qui montre que Mediapart n'a pas toujours raison, même s'ils ont tendance à le croire. J'ai fait l'effort de lire tout ce livre intégralement, les 400 pages. Oui. Je peux vous dire que j'ai entendu Fabrice Arfi dire à votre micro hier qu'il n'avait pas de doute. Eh bien moi j'en ai énormément, parce que c'est un long amassis de témoignages. Certains sont assez impressionnants, d'autres sont particulièrement douteux, voire invraisemblables, et toute cette addition donne une impression assez malsaine, impression que j'éprouve moi-même lorsque je vois ce qu'ils écrivent sur moi. Et donc, je pense que Mediapart fait des enquêtes à l'envers, c'est-à-dire que Mediapart part d'un postulat et essaye ensuite de démontrer ce postulat. Il est regrettable qu'il le fasse avec la complicité objective de la justice, puisque la justice a mis sur écoute en quelque sorte à la demande de Mediapart, puisque tout ce qui a fondé cette enquête, c'est le premier article de Mediapart, celui qui ne produisait aucune preuve valable, sans quoi des gens seraient poursuivis 6 ans après. Nicolas Sarkozy n'a jamais été entendu dans cette affaire. Je ne suis pas son avocat, mais on a quand même le droit de dire que quand la justice, après 6 années, n'arrive pas à poser une seule question au personnage qui est le principal mis en cause, c'est que la justice elle-même doit avoir beaucoup plus de doutes que les journalistes de Mediapart.
Merci.
Je ne vous cache pas que j'en ai aussi.
Vous en avez aussi sur l'ensemble de l'affaire, hein, je le précise bien, sur l'ensemble de l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je précise que vous n'avez pas été le seul mis en cause hier au cours de l'émission par Fabrice Arfi et dans ce livre. Donc j'invite tous les auditeurs à écouter également la réponse que Étienne Jernel, patron du Point, a faite ce matin sur notre antenne, où il est chroniqueur régulier chaque jeudi à 6h40. Et par ailleurs, le Point publie un long papier dans sa version numérique, Mediapart, le complotisme au petit pied, qui commence par cette phrase, Thierry Messiaen a fait des émules. Je vous laisse juste. Merci beaucoup Hervé Gattegnaud, à bientôt.
Merci à vous.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Voilà, mon invité du jour, c'est Johan Hufnagel. Rebonjour Johan Hufnagel, après cette longue parenthèse. Vous êtes donc le directeur des éditions de Libération. Vous quittez le journal le mois prochain. On va parler évidemment de vos futurs projets. Mais des projets, est-ce que vous aviez toujours les moyens d'en avoir à Libération, justement ?
Oui, bien sûr. Le premier projet, qui est celui de plus long terme, a été de reconstruire un journal qui avait été un peu dans la tourmente il y a 3-4 ans.
Oui, qui a été racheté donc par
Patrick Drahi en 2014.
Qui a subi un plan social très lourd.
Voilà. Donc il a fallu reconstruire le journal, reconstruire la psychologie du journal, reconstruire une identité du journal, retrouver des nouvelles plumes, les faire grandir. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver à maturité. Et c'est arrivé à maturité au moment de la campagne électorale présidentielle. résidentiel, ce qui fait qu'effectivement on a eu de très très bons résultats sur le
100 000 exemplaires en diffusion France payée
sur le papier
en moyenne
et sur internet aussi. L'autre projet, c'était
vous êtes revenu aux chiffres de 2013, donc une belle progression parmi l'ensemble des quotidiens qui souffrent très généralement, même si tout le monde a été porté par l'actu, même si les ventes en kiosque restent quand même très très faibles, 20 000 exemplaires par jour, c'est très peu.
C'est très très peu. Aujourd'hui, on sait de toute façon que notre avenir passe par le numérique, passe par la distribution numérique, soit sous la forme de PDF, ce qui est le cas, soit de
produits. Et plus du tout par le papier.
Beaucoup moins par le papier.
Beaucoup moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire une édition le week-end et puis...
Non, pas du tout.
Et
ça...
puis plus d'édition tous les jours?
Non, ça faisait partie des grands fantasmes que je pouvais moi-même avoir quand je suis arrivé à Libération. Est-ce que Libération doit continuer à être un quotidien imprimé tous les jours? On a réfléchi avec les,
vous
avec
êtes
les
sûr
salariés.
Que Libération sera pas le prochain journal à disparaître en kiosque?
En tout cas, c'était absolument pas la volonté ni de la rédaction et encore moins des actionnaires.
Mmh. Vous partez, votre adjoint David Carzon est parti, le DG François Dieulcin s'en va. Un texte a été voté hier à l'unanimité par l'Assemblée Générale du journal. Vous vous êtes manifestement opposé à ce qu'il soit reproduit dans le journal ou sur le site. Alain Veil, patron d'Altice Média, qui est la branche média du groupe Drahi, demande de la patience à des salariés qui, je cite, ont déjà fourni beaucoup d'efforts, des efforts considérables. On sent bien que cette rédaction, elle est complètement à l'os. Vous êtes peu pour produire un quotidien généraliste tous les jours.
Et un
site web. Et manifestement, on ne vous offre pas les moyens d'étoffer vos équipes.
Alors ça, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Ce que nous demandent les actionnaires, c'est un projet. Ce projet, c'est un projet stratégique qui a été défini au début de l'année dernière. Et c'est vrai qu'on a dû, entre guillemets, le mettre un peu sur pause pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait la campagne, il y avait le déménagement à venir qui fait aussi partie de ces projets. Libération quitte non pas son chez historique, mais la rue de Châteaudun où on a travaillé pendant
et
deux ans.
Et rejoint RMC, BFM TV. Voilà,
et rejoint à peu près dans un grand mouvement que fait la presse vers le 15e arrondissement et le sud-ouest de Paris. Donc ça aussi, ça prenait du temps. Et puis, il y a effectivement eu des départs. Et pour mettre en place ce projet, il faut des hommes, il faut du temps. Et ça, c'est ce qui doit arriver. Alors, il y a effectivement l'impatience de la rédaction. Je la comprends. Moi-même, je suis très impatient. J'aurais bien aimé que ça arrive beaucoup plus vite. Je pense que pour faire ce...
C'est pour ça que vous partez ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, je pars pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un projet.
On va en parler.
Et puis que ça fait trois ans que je suis revenu à Libération. J'y avais déjà passé 16 ans de 90 à 2006. Que diriger un journal, c'est quand même très très lourd.
Mais diriger un journal quand on n'a pas les moyens de faire grandir une rédaction, quand une rédaction tous les jours doit faire des choix extrêmement cruels dans l'actualité parce qu'elle ne peut pas tout couvrir.
Mais c'est
encore plus lourd, c'est encore plus dur.
Non, mais parfois, bien sûr, c'est frustrant. Mais je pense que c'est aussi notre travail quotidien aujourd'hui de gérer cette frustration. On ne peut pas, ça c'est un mythe de vouloir tout couvrir. On est obligé de faire des choix. Et Libération est un journal qui doit faire encore plus de choix que les autres. À la fois parce que c'est notre identité. On a toujours été un petit journal. Quand j'entends, oui, mais vous êtes très très loin du Monde, vous êtes très très loin du Figaro.
On a toujours, très loin, bien entendu.
On a toujours été très très loin d'eux. On n'est pas un journal généraliste.
On est un journal généraliste
vous êtes particulier.
Un quotidien d'actualité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Mediapart, justement, qui fait des choix. Vous n'êtes pas Mediapart. Oui, vous avez vos combats.
On n'est pas le journal où, comme le Figaro, par exemple, on doit avoir une séquence écho. On n'est pas un journal où on doit tout couvrir. Il faut qu'on fasse des choix. Et de plus en plus. Parce que de toute façon, l'actualité, elle est tellement débordante aujourd'hui. Quand avant, on était sur notre petit marché français, c'était beaucoup plus simple de choisir les choix. Aujourd'hui, l'actualité vient de partout. Et tout le temps, en temps réel. Donc il faut faire ses choix. Mais effectivement, oui, il y a une impatience, je vous dis, que je comprends. Et les actionnaires sont prêts à prendre leurs responsabilités. Ça, je le crois fermement.
Vraiment. Libération en même temps, .fr, par là où va passer votre avenir, comme vous le dites, et personne n'en doute, n'est pas une marque très puissante sur le web. En 18e position du classement Médiamétrie, en 29e position du classement de la CPM. Bon, c'est du jargon du métier, mais c'est pour dire que parmi les marques d'info, il est loin, loin, loin le site de Libé.fr par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres sites d'info.
Je suis un peu en guerre contre les classements. Aujourd'hui, Libération est environ lu chaque jour par 800 à 900 000 personnes, ce qui est beaucoup, essentiellement en mobile, sur les tablettes et sur les téléphones. C'est énorme. Et ça, ces chiffres-là ne sont pas pris en compte. Alors, vous me direz, pour les autres, ça pourrait être pareil. Mais la difficulté de mesurer le classement et la difficulté de mesurer l'impact de Libération aussi sur les réseaux sociaux, on a sur Twitter, par exemple, c'est 2 millions de followers. C'est autant que le Figaro. Donc l'impact, aujourd'hui, pour Libération, c'est comme les autres. Alors effectivement, on n'est peut-être pas aussi bien packagé, on n'est peut-être pas aussi bon tout le temps, partout, on n'a pas ce côté temps réel. On a voulu refuser le temps réel, on a voulu refuser d'être en permanence sur l'AFP, d'être en permanence sur le buzz. Quand je compare...
Parce que vous n'êtes pas assez.
Non,
aussi parce que vous n'avez pas les moyens de le faire.
Non, parce que c'est un vrai refus de notre part. D'accord. De ne pas vouloir aller sur la moindre connerie, le moindre lien Internet repéré sur un site américain ou russe qui va générer effectivement de l'audience parce que ça va passer par tous les canaux à buzz. On a voulu refuser ça. Et évidemment, c'est plus compliqué.
Alors, les unes de Libération, vous parlez de Twitter, les unes de Libération restent les plus partagées sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs une sorte d'écart assez paradoxal, assez vertigineux entre le nombre de lecteurs qui se déplacent en kiosque attirés par votre une, je l'ai dit, qui est très faible, et l'impact de vos unes. Vous avez fait, par exemple, des unes, vous continuez de faire des unes merveilleuses au moment des nécros, au moment où on enterre de grandes personnalités, et elles sont toujours citées en exemple, l'amour Moreau avec cette sublime photo de Jeanne Moreau, cavalier seul, Jean Rochefort. Et vous me disiez justement avant l'antenne que Jean Rochefort, c'est pas tellement l'histoire de Libération.
Non, c'est vrai que c'est pas Libération, le service ciné, le service culture de Libération est plutôt tourné vers un espace critique qui était celui de la Nouvelle Vague. Et c'est un vrai ce cinéma qu'on défend, mais pas forcément celui dans lequel Jean Rochefort a excellé. En tout cas, celui où il a eu ses plus grands rendez-vous. Donc il y a eu des discussions sur est-ce que Jean Rochefort c'est Libération culture, ou est-ce que c'est Libération Société ? Et c'est Libération Société qui a un peu gagné.
Qui a gagné. Ce week-end, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Alors ça, c'était dans l'entre-deux-tours, et ça a fait beaucoup causer.
Ça fait beaucoup causer, après, pour deux raisons. D'abord parce que les lecteurs, aujourd'hui, n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire. Bon, là, je trouvais qu'en faisant cette manchette, on était à la fois dans un ton un peu ironique de faites ce que vous voulez, et en même temps, et puis aujourd'hui, tous les gens qui nous le ressortent ont un peu tendance à oublier qui était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors tout le monde dit, oui, mais on savait très bien que Marine Le Pen ne gagnerait pas, sans doute. On a quand même eu beaucoup de surprises en 2016 et 2017. Je pense qu'il était important pour nous, pour Libération, de dire qu'il ne fallait pas que Marine Le Pen soit haute. Et on voit bien aujourd'hui
que...
Oui, il y a un vote utile. Oui, on voit bien aujourd'hui que justement, elle a du mal
et
à redémarrer.
Cet édito, signé Johann Hussnagel, le vôtre, j'ai honte. J'ai honte de mon impuissance et de celle de Libération. J'ai honte. Et vous avez honte de quoi ? De ce qui se passe en Syrie et d'avoir échoué à mobiliser et l'opinion et les pouvoirs publics. Vous quittez donc ce journal avec votre honte ?
Oui, malheureusement, c'est effectivement... quand on fait ce métier, on essaie d'avoir... un impact, de pouvoir faire changer les choses. Et c'est vrai que on a beaucoup enquêté sur ce qui se passait en Syrie. Luc Mathieu y va régulièrement. Alaa Kodmani suit ça de façon presque quotidienne sur la situation en Syrie. On voit bien comment ce pays en guerre, où il y a plus de 200 ou 300 000 morts, on n'arrive même plus à les compter. Plus de 4 millions de réfugiés qui vivent dans des pays où, qui déjà en acceptaient beaucoup trop pour leur taille et leur richesse. Comment c'est en train de déstabiliser le monde entier. Et je trouve que la réponse des politiques a été pas satisfaisante, voire franchement en dessous de tout. Qu'on aurait bien aimé pouvoir faire changer les choses en montrant quelle était la réalité de
Alors,
ce pays.
Alors, allez-vous continuer à mener des combats ? Vous lancez dans un projet web qui s'appelle un projet numérique, qui s'appelle Loopsider, avec Bernard Mourad, qui est l'ancien patron du pôle média de Patrick Drahi, votre nouvel actionnaire. Pierre Fadenreich, c'est ça, ancien patron Libé ? Non, il ne vous rejoint pas.
Parce
qu'il a été cité beaucoup. Franck Papazian, entrepreneur, il vous rejoint ?
Oui.
Il vous rejoint, d'accord. L'ancien patron de Dailymotion France vous rejoint ?
La vraie histoire, c'est un projet qui est initié au départ par Arnaud Maillard et Giuseppe Di Martino.
Voilà.
Arnaud travaillait pour Eurosport, Discovery et Giuseppe pour Dailymotion. Ils m'ont demandé de les aider à un moment pour définir la partie éditoriale, avec sans doute l'idée qu'à un moment j'allais les rejoindre.
C'est ce qui se produit.
Et c'est vrai que quand ils ont cherché des fonds, ils se sont tournés vers des gens qui pouvaient les aider à chercher de l'argent.
D'où Bernard Mourad. Alors Loopsider, ça va être de la vidéo, ça va être du programme court. C'est ce que ça va être de la vidéo uniquement destinée aux réseaux sociaux, comme le fait Brut aujourd'hui avec énormément de succès.
C'est évidemment notre modèle, modèle de partage aujourd'hui. Notre idée de base, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent plus l'information. Que la vidéo est évidemment en train d'investir et d'envahir massivement les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, Instagram et YouTube, évidemment, et qu'on veut aller vers ces plateformes-là. C'est là que se trouvent les lecteurs aujourd'hui. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas une application.
Mais est-ce que c'est là que la guerre va se mener cette année, clairement, parce qu'on voit que Black Pills, qui est tout à fait dans le même positionnement, va déployer de très gros moyens aussi sur l'info à partir du mois de janvier, que Combini a à changer de positionnement. Ils sont passés de la pop culture à la politique avec des vidéos avec Christiane Taubira vues 3 millions de fois. Il y a Agiplus d'Al Jazeera qui arrive en France. Est-ce que c'est là que la guerre va se mener?
Je pense qu'en tout cas, il va y avoir là une guerre de position et de d'identification aussi, d'identité. Qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut faire et pour qui? Nous, notre idée est de faire des contenus intelligents. On n'est pas là pour faire de l'émotion. On n'est pas là pour mélanger des gifs de chat et des politiques. On a une envie, c'est d'essayer d'aider le plus jeune public à essayer de comprendre l'information. Je pense que là, il y a un vrai, véritable enjeu citoyen, démocratique, d'essayer de dire aux plus jeunes qui ne lisent plus les journaux.
Et vous démarrez quand ?
En janvier.
En janvier. Tout est prêt ?
Non.
Tout n'est pas prêt.
Tout n'est pas prêt.
Merci beaucoup, Johan Hufnagel. C'est la fin de cette émission. Alors, vous ne retrouvez pas aujourd'hui Grand Bien vous fasse à l'IRBI pour les raisons de grève qui, évidemment, empêchent l'émission de se faire et qui auront lieu au fur et à mesure de la journée. Donc, le prochain rendez-vous sur l'antenne, c'est Nagui avec Grand Bien vous fasse.